Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Bonjour, bon dimanche et bonne année par la même occasion. C'est notre première émission de l'année de Mémoire vive avec pour thème l'enfant déporté. Enfin, ça sera plus précisément le thème cette année du concours de la résistance et de la déportation. Et donc, on évoque ce dimanche un livre de témoignages publié aux éditions Le Manuscrit avec le concours de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui s'intitule De Drancy à Bergen-Belsen, sous-titré Souvenirs rassemblés d'un enfant déporté. Nous sommes en compagnie de Jacques Sorel. Bonjour.
Bonjour.
L'enfant déporté, c'est vous donc. Vous êtes l'auteur de ce livre de souvenirs. Vous êtes né en 1933. Début février 1944, donc vous avez 11 ans à ce moment-là. Vous êtes interné à Drancy, ainsi qu'une de vos sœurs et votre frère. Puis, quelques trois mois plus tard, vous êtes donc déporté à Bergen-Belsen, dans ce qu'on appelait alors le camp de l'Étoile. Et vous avez eu donc 12 ans dans ce même camp. Vous avez écrit une première version de votre récit en 2002, 58 ans donc après les faits, et puis vous publiez donc plus de 60 ans après cette expérience dramatique, tragique. Avant de revenir peut-être sur l'histoire de votre déportation, dites-nous comment s'est imposée à vous, si longtemps après, cette nécessité de raconter.
Alors, j'emploierai pas le mot de nécessité, ce sont des circonstances qui m'ont amené à cela. C'est-à-dire qu'en 1996, j'ai retrouvé mes amis lors de l'inauguration d'un monument dédié aux déportés de Bergen-Belsen. J'ai retrouvé là des amis. Et mon épouse m'accompagne dans toutes ces rencontres. Et quand elle s'est rendue compte qu'effectivement, quand nous échangeions des souvenirs avec mes amis, j'avais beaucoup de souvenirs très précis. C'est-à-dire que moi, le fait d'en parler réveillait d'autres souvenirs chez mes amis. Ma femme m'a dit un jour, il faut que tu les écrives pour tes enfants.
Parce qu'effectivement, bon, on arrive à un âge, encore vous avez été déporté jeune.
Très jeune, oui. Mais j'avais une mémoire apparemment très, très vive sur ces souvenirs et très précis quant à quantité de faits qui s'étaient produits.
Qui étaient restés gravés.
Qui étaient restés gravés.
Alors justement, on va rapidement, puisqu'on va renvoyer les auditeurs à votre livre, enfin quelques mots quand même pour retracer d'abord peut-être l'itinéraire de vos parents avant-guerre. Ils sont venus comme beaucoup de Pologne dans l'entre-deux-guerres.
Tout à fait, ils sont arrivés dans les années 20, si j'ai mon bon souvenir. Maman est arrivée en 1923, mon père en 1925. Maman avait 12 ans et papa avait 15 ans. Ils ont épousé la France dans tout le sens du terme. Mon père était très très fier de représenter la France, d'où son engagement à la dernière guerre en tant qu'engagé volontaire.
Ils étaient comme tout le monde, si je puis dire, dans la confection.
Ils étaient mes grands-parents apparemment étaient dans le cuir, dans la maroquinerie. Oui, voilà, ce sont des professions effectivement qui étaient très souvent dans ce milieu-là.
Alors, on va très vite parce que on va développer l'ensemble, notamment passer plus de temps sur votre déportation. Vous écrivez que ce n'est qu'à l'automne 40 que vous avez découvert ces mots nouveaux pour vous, juif et youpin. Est-ce que vous les découvrez tous les deux en même temps, positive et négative en même temps?
Je les découvre tous les deux en même temps. C'est même un petit peu plus tard, parce qu'en 40 encore, on n'entend pas tellement ces genres de propos. Ces propos, je vais les entendre surtout, c'est quand je vais porter l'Étoile en 1942, et c'est au regard de certaines personnes, dont une commerçante devant laquelle je passais souvent, qui, elle, m'interpellait sur le pas de sa porte, sale juif, sale youpin, mot que je n'entendais pas dans ma famille.
Mais vous saviez quand même que vous étiez juif.
Non, je peux dire non, puisqu'il n'y avait, on ne pratiquait pas de religion. Il n'y avait aucun signe, j'ai jamais vu mon père avec un caporlet sur la tête. Je n'entendais pas parler de fêtes juives, pas plus chez mes grands-parents qui habitaient tout près.
Il restait rien du tout de la tradition juive?
Je crois qu'il y avait des festivités. Des festivités auxquelles j'appartenais. Donc effectivement, en 40, je n'ai que 7 ans. Je n'ai pas un regard très très précis sur ce genre de fête.
Vous dites quand même qu'il y a une grand-mère qui, le soir, allume une bougie.
Voilà, c'est un souvenir précis. Leur appartement est à l'étage, au-dessus de la boutique de cordonnerie de mon grand-père. Je l'accompagnais, je la voyais, qui allumait une bougie, se recueillait devant, mais je n'en comprenais pas la signification. Je trouvais ça très joli, le scintillement de cette flamme sur le visage de ma grand-mère. C'est pour ça que ça me restait un fait très marquant.
Mais donc, vos parents étaient pour l'intégration, évidemment, dans la République française.
Mes parents étaient pour l'intégration,
donc on républicaine.
Je n'ai pas été, ainsi que mes frères et sœurs, élevé du tout dans la religion.
Alors, donc malheureusement, vous êtes rappelé à cette identité juive de façon extrêmement violente, comme vous venez de le raconter. Dans quelles conditions vous êtes interné, donc à Drancy?
Alors, je suis arrêté, il y a effectivement la connaissance, le recensement dans les commissariats, on est juif, donc l'obéissance des Français d'origine étrangère que sont mes parents s'inscrivent, ce qui fait qu'on est recensé. Je suis arrêté dans la nuit du 3 au 4 février 1944 à mon domicile et conduit au camp de Drancy en passant par le commissariat. Alors, cette arrestation est un peu particulière parce qu'il semblerait qu'elle ait été passée un petit peu sous silence du fait que le commissaire, en arrivant au matin, était très surpris de trouver la petite famille dont il connaissait le nom à travers mon grand-père qui apparemment il connaissait.
Mais là, ce n'était pas une rafle à ce moment-là où vous étiez... Pourquoi vous avez été
il semblerait que c'était une rafle particulière qui concernait les femmes et les enfants de prisonniers de guerre qui avaient été ce que l'on appelle un peu épargnés jusque-là. On était protégé, semble-t-il, par ce qu'on appelle les conventions de Genève, du fait du statut du prisonnier de guerre de mon père, nous bénéficions de certains, on va dire, avantages, c'est-à-dire non arrêtables pendant un certain moment, jusqu'à la date du 3 au 4 février, où quantité de familles vont se retrouver arrêtées.
Femmes et enfants, bien sûr.
Femmes et enfants de prisonniers de guerre.
Alors, vous n'y êtes resté que quelques mois à Drancy.
3 mois à Drancy. Voilà.
Comment ce camp de Drancy est-il perçu par votre sensibilité d'enfant quand vous y êtes?
Alors, quand je suis arrivé, c'est tout de suite, quand on est habitué à courir dans les rues, à être ce qu'on appelle libre, arriver dans cet endroit où vous avez une porte qui se referme derrière vous, et puis tout est ordonnancé, c'est la privation de liberté. Une espèce de chape qui s'abat sur vos épaules, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. On est soumis à des ordres constants.
Alors là, vous êtes avec qui de votre famille?
Alors, je suis arrêté avec maman, ma sœur aînée et mon plus jeune frère. Ma petite sœur a eu la chance d'être cachée dans une famille dans la Sarthe. Elle va échapper à la déportation.
Alors, vous sortiez quand même dans la cour du camp?
Alors, oui, on a, comment dirais-je,
une
libre circulation. Effectivement, on va trouver le moyen de jouer puisqu'on est dans ce camp. Personne ne sait ce que va être le devenir après notre passage dans ce camp. Donc on réagit un peu comme des enfants, c'est-à-dire on trouve le moyen de jouer. Des adultes, même dans une pièce, tentent quelques occupations, pour certains même continuité d'études, et d'autres dont je faisais partie, du papier, des crayons de couleur pour pouvoir dessiner. Voilà, je dirais pas une forme d'insouciance, avec ce sentiment que notre périmètre d'évolution, c'est le camp, c'est la cour du camp de Drancy.
Vous avez le souvenir de conversations entre adultes
Non, pas particulièrement. À ce moment-là encore, on voit arriver des gens, on en voit repartir. C'est la grande interrogation, on parle de l'inconnu. Ce joli mot qui sonne bien à l'oreille, mais qui est mystérieux, qui est pitchipoy. Les gens partent pour pitchipoy, ça nous amuse, les enfants. Donc c'est l'inconnu. On ne sait pas. Ce qui fait que le sentiment que j'ai, c'était pas vraiment de l'inquiétude sur le moment. On est là, retenu, privé de liberté.
Et on est quand même en 44, hein, donc voilà. On ne sait toujours pas vraiment ce qui peut y avoir derrière ces camps d'internement français.
Absolument.
Dans quelles conditions vous êtes ensuite déporté à Bergen-Belsen?
Alors, dans les conditions, dans la nuit, c'est la veille du 3 mai 1944, on est sur une liste de départ. Alors, effectivement, là, se produit quelque chose. Quand on voyait partir les autres personnes, on ne comprenait pas tout à fait ce que cela pouvait représenter. Mais là, donc, on est rassemblés dans la cour, des camions viennent nous chercher. Et alors là, c'est encore une fois tout ce groupe particulier de femmes et d'enfants, de prisonniers de guerre. Nous traversons Paris, dirigés vers la gare de l'Est. La gare de l'Est, on va stationner un moment sur les quais. Et un train dans lequel nous montons, c'est un train de voyageurs, des vieux wagons de troisième classe. Et on part vers une direction que l'on pensait, avec des bruits qui courent, on allait nous diriger vers un lieu plus sympathique que Drancy, peut-être un château. Le mot a même circulé, un château en Alsace. Mais quand nous voyons la direction que prend le train vers le nord, traversant la Belgique et se dirigeant vers l'Allemagne, là l'anxiété commence à gagner tout le monde dans le train. Ce n'est plus du tout l'espérance que certains avaient que l'on allait vers des lieux plus hospitaliers que Drancy.
Conditions de voyage peut-être moins difficiles.
Alors les conditions de voyage, oui, certainement. Là, vous savez, j'ai appris les horribles conditions de voyage qu'ont connues les autres déportés, le wagon à bestiaux fermé, privé d'eau, de nourriture, etc. On n'a pas connu ça. Non, c'était encore une espèce de forme de liberté, d'avantage qu'on pouvait avoir à ce moment-là, on pouvait aller dans le couloir du train. Bien, la présence des Allemands qui étaient là faisait que, bon, c'était très sérieux. Il ne s'agissait plus de rire, ni de courir, ni quoi que ce soit. Mais on n'était pas, comme je l'apprendrai plus tard, parqués dans un wagon, comme beaucoup l'ont été.
Alors, comme tous les déportés, évidemment, le choc, c'est l'arrivée dans le camp.
Alors, le choc, oui, après l'arrivée à Hanovre, on arrive à Hanovre, en Allemagne, puisque effectivement on découvre où est notre destination. Débarquer, emmener dans des camions et diriger vers un endroit dans lequel on va pénétrer, qui ressemble au départ à un casernement avec des baraques alignées avec des toits bas, et on découvre ce camp dont on va connaître le nom, qui est Bergen-Belsen.
Là encore, comment l'enfant que vous étiez, toujours entre 11 ans et 12 ans, comment vous perceviez la vie dans ce camp, plutôt la survie, comment on peut voir ça?
Voilà, alors ça commence par un choc brutal. Déjà, le choc brutal, c'est l'arrivée véritablement à la gare, c'est-à-dire la façon dont on va recevoir les ordres. Autant Drancy encore, c'était, je dirais, relativement calme. Là, c'est le langage guttural, ce sont des ordres hurlés. Donc c'est là que s'installe la frayeur que je vais ressentir. Et c'est un mot que je vais avoir, la peur, frayeur. On croit toujours avoir atteint le maximum de la frayeur, mais il y a toujours un plus qui vient s'ajouter. Ce plus, je vais le découvrir en arrivant à Bergen-Belsen, quand on va regarder autour de nous, bien de voir ces visages émaciés, les têtes rasées, certains avec des costumes rayés. Et puis un geste incroyable qu'on comprend très très vite, celui de porter la main à la bouche, qui veut dire manger, manger. On va comprendre qu'ils nous demandent si on apporte avec nous de quoi leur donner à manger aussi. Voilà. Donc c'est un sentiment de peur qui s'abat sur les épaules aussi bien des enfants, l'enfant que je suis, et je crois des adultes.
Alors, vous racontez que votre condition d'enfant n'était pas prise en compte par les adultes, alors non seulement par les tortionnaires, mais même par les victimes.
Et voilà,
ce qui
alors,
fait qu'évidemment, on devient sans doute très vite adulte dans ces conditions.
Tout à fait. Par exemple, je vais rester par un moment avec mon frère, ma sœur et maman. Ça va être un régime. Les enfants n'ont pas de ration supplémentaire, aucun régime particulier. On est soumis au même régime, c'est-à-dire les appels interminables dehors, sous le soleil l'été, la neige, la pluie l'hiver, etc. Mais par contre, je vais ressentir moi quelque chose de particulier, c'est qu'avec mon âge ou peut-être ma taille par rapport à d'autres, je vais me retrouver dans ce que j'appelle la baraque des hommes. La baraque des hommes, autant nos souvenirs quand on les rassemble avec des amis, on ne devait être que 3 ou 4 dans cette situation-là, dans une baraque où en plus on est séparés les uns des autres, on n'arrive même pas à s'unir, et je vais connaître ce que j'appelle l'injustice, la méchanceté de l'homme dans des situations effectivement tout à fait particulières. Ouais. Être puni alors que je ne le devais pas. Voilà.
Là, vous êtes évidemment séparé de votre mère.
Ah oui, là, je suis séparé. Alors, ça va être une espèce de forme. Je vais être avec maman, je vais en être séparé. Le camp, avec le temps qui va passer, se désorganise petit à petit. Ouais,
on est déjà effectivement à ce moment-là, au milieu
à la fin des années 44.
Vous racontez des scènes terribles du genre enfant, finalement, vous avez le moins bon emplacement
voilà,
pour dormir. Vous avez l'eau qui vous tombe sur le matelas, vous essayez de vous recroqueviller pour
tout à
rester
fait.
Au sec. C'est terrible parce que finalement, ce sont les autres déportés qui
tout à fait.
Qui vous c'est font là... subir ce régime-là aussi.
Absolument. Et c'est ce que je vais découvrir par rapport justement au temps. Il va y avoir un comportement protecteur quand je suis avec maman et les autres mères avec leurs enfants. Autant là séparé, je deviens totalement un petit étranger. Mmh. Un petit étranger dont on ne fait absolument pas attention. Et j'ai presque honte de rappeler ces souvenirs quand on m'a privé de la soupe alors que ce n'était pas moi. C'était le voisin qui devait l'être, mais c'était certainement un copain du chef de baraque. Et qu'aucun m'a tendu une cuillerée de soupe. C'est des choses qui vous restent gravées à jamais, qui vous font réfléchir un petit peu ce que peut être l'homme dans des conditions particulières.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'enfant? Vous avez 12 ans par exemple. Vous vous rendez compte que votre anniversaire de 12 ans à Bergen-Belsen, est-ce que vous voyez tout d'un coup, vous découvrez quelque chose de l'existence, vous élaborez, vous pensez, ou vous êtes totalement pris par le système concentrationnel?
Je suis pris par le système, mais je comprends cette violence. Je subis cette violence sans la comprendre. Surtout qu'en plus, et là ça va peut-être avoir un petit rapport avec la religion, c'est que ce responsable qui va me donner la plus mauvaise place tout en haut d'un chalet où il pleut dessus, je vais le voir avec les attributs de sa religion faire la prière. Alors le peu que je savais éventuellement que je pouvais comprendre de ce qu'était la religion, c'est-à-dire la gentillesse, tendre la main, je m'aperçois qu'il n'en est rien du tout. Donc pour moi c'est quelque chose de très fort, de très marquant, et voilà, c'est ces choses que je vais porter longtemps en moi tout au long de ma vie. Je vais avoir le plus grand respect pour la religion, mais je vais penser en moi-même qu'elle a des aspects un peu bizarres.
Disons qu'elle ne préserve pas d'une forme
tout à fait.
D'inhumanité. On dispose de très nombreux témoignages de déportés, mais évidemment assez peu d'enfants déportés qui ont pu revenir. Comme vous, ce traumatisme des camps, dont il est ensuite vraiment impossible de se défaire vraiment, est-ce qu'il s'atténue toutefois lorsqu'on l'a vécu étant enfant, ou au contraire, est-ce que c'est une marque encore plus profonde, plus importante ?
Voilà, cette chose, je l'ai toujours portée en moi, je crois, mais sans jamais le montrer. Je crois que cela ne m'a jamais quitté. Mon entourage, quand ils parlent de moi, disent que M. Sorel, il y a des choses qui glissent sur lui, des choses qui ne sont pas importantes. Effectivement, j'ai minimisé, je ne m'intéresse qu'aux choses effectivement importantes. C'est-à-dire, ce que j'ai connu, la chance d'en être ressorti, je vais employer un mot peut-être qui a été trop galvaudé, positiver ma déportation. C'est-à-dire que chaque jour qui commence, pour moi, c'est un jour de sursis, c'est un jour de bonheur, un jour de gagner. Voilà, donc je vais vivre toujours avec ça, sans jamais en parler, mais bien des fois, quand je serai confronté à des difficultés, comme n'importe qui, je repenserai à ces choses-là et je me dirai, tu es là, c'est l'essentiel.
Un mot de votre retour, Jacques Sorel.
Le retour, bien, il faut,
vous
faut évidemment.
Votre père à l'hôtel Lutetia.
Je vais le retrouver
le
23 juin, tout à fait, 1945. Papa est anxieux depuis longtemps puisque il n'y a pas de liste de personnes rapatriées. Je vais reconnaître mon père, ma sœur, je crois, et mon frère ne le reconnaîtront pas.
Mais vous apprenez à ce moment-là que de très nombreux membres de votre famille ont disparu.
Tout à fait. Il n'est revenu absolument personne de la famille.
Donc, vous le disiez, comme beaucoup de déportés, vous n'avez pas vraiment reparlé de votre déportation dans l'immédiat, dans les années qui ont suivi. Est-ce que vous ressentiez le besoin d'oublier à ce moment-là, de sortir de cette situation, de reprendre une vie peut-être plus normale ?
Comme je l'ai dit, j'en suis jamais sorti, mais ça n'a pas été ce qui m'a, je ne le portais pas sur moi constamment, hein. Je ne l'avais pas sur le front, je ne l'avais pas toujours, mais c'était à l'intérieur de moi, ce qui a motivé ma vie. Je n'ai pas voulu avoir de trop grandes prétentions, je voulais vivre simplement et jouir de la vie, en employant le mot « jouir » dans la plus belle expression.
Comment s'est faite la transmission de votre histoire ? Vous avez deux enfants, deux fils. Comment vous avez transmis ?
Eh bien, pendant très longtemps, ils n'en ont rien su.
Jusqu'à quand ?
Ma grand-mère, leur grand-mère, donc maman n'en parlait pas. Ils ont découvert un peu quand j'ai commencé à m'impliquer. Je ne leur ai jamais véritablement raconté mon parcours. Je crois que véritablement, ils l'ont découvert en lisant ce qu'on appelle la première version, le petit apuscrit qui s'est transformé après, demande de certains, en un petit livre.
Alors, comment ils ont réagi quand ils ont lu votre livre.
J'ai la réaction, j'ai toujours un peu cette image émouvante de mes deux fils. Quand ils me regardent, j'ai l'impression que c'est eux qui sont devenus le père et moi le fils. Ils ont un regard incroyablement protecteur qui me touche et qui me bouleverse à chaque fois.
Un mot encore sur la décision que vous prenez en 1963 de changer de nom. De Schwarzenberg, qui est votre nom donc d'origine,
oui,
de vos parents, votre père, vous passez donc à Sorel, S-A-U-R-E-L, c'est évidemment plus facile à épeler, c'est une décision difficile à prendre.
Décision difficile à prendre, c'était en concordance un peu avec mon frère qui en avait parlé et moi-même. Je m'étais dit, j'ai souffert, donc ça a été le retour, ça a été à l'armée, ça a été quantité de choses. Je me suis dit, j'ai deux enfants, est-ce qu'ils doivent avoir, porter sur eux les difficultés d'un nom compliqué ? Je pensais déjà qu'ils allaient avoir ce que j'appelle la bataille de la vie toute seule. Je pensais que c'était suffisant à porter sur les épaules et je ne voulais pas, j'appelle ça un handicap, effectivement, j'ai pas peur du mot, un handicap de leur donner un nom difficile. Ça a été pour moi, on m'a accusé presque de trahison, je comprends ceux qui l'ont dit, on n'abandonne pas un nom, mais j'ai eu un soutien formidable, c'est celui de mon père. Qui était tellement admiratif de la France, il aurait laissé entendre que s'il avait su, il l'aurait fait aussi.
Et vos enfants, par rapport à ça maintenant, ne font pas d'observation non plus ?
Ils ne font pas d'observation.
Vous ne regrettez pas cette décision ?
Et je ne la regrette absolument pas, étant devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Au contraire, je me félicite de l'avoir fait. Mais je ne considère pas non plus que c'est une fuite en avant, comme certains pourraient le penser.
Jacques Schwarzenberg, donc Jacques Sorel.
Jacques Sorel.
On parle beaucoup aujourd'hui de la mémoire, de la nécessité de la maintenir vivante. C'est d'ailleurs le titre, l'un des objectifs de notre émission Mémoire Vive. Comment il faut s'y prendre avec la génération qui vient, la quatrième génération, celle qui finalement ne va plus connaître les témoins directs, malheureusement. Comment vous voyez ce problème de la transmission générale ?
Alors, personnellement, je suis un acteur de cette transmission de mémoire. Comment je la vois ? Mais je la vois surtout à travers le travail extraordinaire que font les enseignants et les pédagogues sur cette transmission de la mémoire. Pour moi, ça a été une découverte d'une catégorie de gens, les enseignants surtout, qui s'emparent de cette page d'histoire, alors que moi, je leur pose la question, quand je vois leur engagement, le temps qu'ils prennent, parce qu'ils font des déplacements en dehors de leurs heures de cours, je leur pose la question, est-ce que vous avez chez vous quelqu'un qui a souffert de ces situations-là ? J'apprends parfois que non, c'est tout simplement l'être humain qui réagit. Alors comment le transmettre ? Eh bien c'était, je crois, dans un discours que j'essaie d'être le plus simple. Mon histoire, quand je la raconte dans des rencontres justement avec lycéens et collégiens, j'essaie de ne pas la dramatiser. Je rapporte les faits en disant le pourquoi ça m'était arrivé, peut-être s'interroger pour que ça ne se reproduise pas. Mais j'essaie d'avoir des mots très très simple. Quand je regarde ces enfants, j'ai l'impression moi-même de me retrouver un enfant parlant à d'autres enfants sur un vécu que j'ai eu personnellement.
Donc, vous faites beaucoup donc, de déplacements dans les classes ?
Oui, je me suis rendu plus disponible depuis un certain temps, mais il y a un encouragement de leur part parce qu'il y a une telle demande de savoir, une telle demande. Je rencontre des fois des jeunes au mémorial de la Shoah et un mois ou deux mois après, les enseignants qui ont initié ce projet me demandent de revenir dans leur établissement en me disant que les enfants ont encore des choses à vous demander.
Vous considérez...
C'est un incroyable... Comment dire, une incroyable récompense pour cet engagement que je ne considère pas. On peut appeler ça mémoire, j'aime pas tellement le mot. C'est une transmission, c'est un petit don de soi à passer à des jeunes qui deviendront des adultes, qui auront des responsabilités. Et quand je leur dis, quand vous rencontrerez quelqu'un, quand vous le traiterez de juif ou de sale nègre, essayez de réfléchir si vous étiez à leur place, ce que vous ressenteriez. Voilà, c'est un petit peu ça à travers mon vécu que j'essaye de leur faire. Entre guillemets, comprendre.
Est-ce qu'il y a des signes qui vous inquiètent aujourd'hui relativement à cette possibilité de transmettre
Alors, les signes, la situation mondiale est d'une incroyable complexité. Mais je crois qu'il faut continuer quand même dans le discours que l'on a, même si trop de choses, moi, m'interpellent, resurgissant de l'antisémitisme, du racisme. J'ai vécu dans un « plus jamais ça ». J'avoue honnêtement que je n'y croyais pas tellement et les faits me confirment. Mais seulement, voilà, on se dit toujours ce qui témoigne. Donc je fais partie, s'il y en a un qui a retenu une petite chose, eh bien il faut continuer à le faire.
Votre éditeur Jacques Sorel termine ainsi son texte de quatrième de couverture. De cette confrontation avec l'horreur si jeune dont il a réchappé il ne sait comment, Jacques s'est forgé une passion, la vie. On l'a un peu entendu tout à l'heure quand vous racontiez. Est-ce que l'on peut parler, dans votre cas, par exemple, d'un phénomène de résilience, au sens où l'entend Boris Cyrulnik, par exemple ?
Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas répondre à
c'est
ça.
C'est-à-dire que ça vous a donné une force supplémentaire.
Enfin, c'est une force. C'est ce qui me porte.
Positiver, c'est ça.
Positiver, j'en crois. Voilà, ce serait peut-être ça. Voilà, chaque jour, je crois, beaucoup de déportés peuvent le dire, chaque jour, que quand on s'élève le matin, qu'il neige, qu'il vente, que les affaires vont mal, que les affaires de cœur ne vont pas bien, eh bien, on se dit quand même, on est là, on peut voir ce qui se passe dehors et vivre avec les gens autour.
Avec quand même le souvenir de cette déportation quasi quotidien, j'imagine.
Exactement, comme tout à fait. Et effectivement, d'essayer d'en parler et peut-être un jour, les hommes comprendront.
Vous vous sentez mieux depuis que vous avez fait ce livre, que vous avez parlé?
C'est-à-dire, non seulement je me sens mieux, je me sens bien parce qu'il y a tellement de signes d'amitié qui se sont manifestés autour de cela. Des gens m'arrêtent dans la rue puisque j'ai travaillé pendant 25 ans dans un endroit, 25 ans, ils ne connaissaient pas mon histoire. Ils l'ont apprise quand le maire a tenu un jour mon livre dans ses mains.
Voilà. Merci beaucoup Jacques Sorel. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, De Drancy à Bergen-Belsen, et le sous-titre Souvenirs assemblés d'un enfant déporté, livre compublié, les éditions Le Manuscrit. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Mémoire vive.